du journal Adiachi Puku.
Les titres de ce journal, une nouvelle adhésion au sein de l'Union pour la Nation. Kengo Wadondo, président du cartel CDC Renaissance et autres, vient d'annoncer qu'il soutient Jean-Pierre Bemba pour le deuxième tour de la présidentielle. Les frappes de la Haute Autorité des médias s'intensifient à l'intérieur du pays. Trois journalistes ont été suspendus à Lubumbashi, un directeur de programme à Kananga, deux radios et deux journalistes également suspendus dans le Bandundu. Tension hier dans l'ex-prison Makala à Kinshasa. Selon un communiqué de la Voix des Sans-Voix, deux groupes des détenus se sont affrontés, faisant 60 blessés. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Une nouvelle adhésion au sein de l'Union pour la Nation, c'est celle du cartel CDC, Renaissance et autres. Léon Kengo Wadondo, l'ancien Premier ministre de la Deuxième République, a opté pour le soutien à Jean-Pierre Bemba au second tour de l'élection présidentielle du 29 octobre prochain. Il a dit dans un point de presse tenu ce matin à Kinshasa. Suivez ses propos, ils ont été recueillis par Jean-Blaise Tamboui.
Le cartel CDC, Renaissance et d'autres ont rejoint l'Union pour la Nation. Sur le théâtre de la campagne électorale et des élections, le second tour de la présidentielle nous intéresse tous, certes, mais nous interpelle tout autant après les événements qui ont envahi Kinshasa. C'est Jean-Pierre Bemba que nous devons élire le 29 octobre pour la dignité, la liberté de notre pays, notre cœur, notre raison, en plus des intérêts évidents de notre peuple, nous fait choisir sans hésitation Jean-Pierre Bemba.
Et puis les deux candidats au second tour de la présidentielle appelés à accepter les résultats des urnes. Message lancé par le sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des affaires politiques et rappelé ce mercredi par le porte-parole adjoint de la MONUC au cours de son point de presse hebdomadaire. Jean-Toby Okala a également réitéré le vœu de voir les deux candidats en lice éviter d'utiliser les médias pour véhiculer des messages de haine. Il a par ailleurs souligné que la communauté internationale compte sur les engagements pris par les deux candidats à accepter le verdict des urnes. Les propos de Jean-Toby Okala sont recueillis par René Capita.
Les deux candidats ont l'obligation de respecter leurs paroles ainsi que tous les engagements qu'ils ont pris, que ce soit devant la population, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, que ce soit encore devant le sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des affaires politiques, M. Gambari, qui a séjourné en RDC la semaine dernière, que ce soit devant le comité international des sages ou même devant le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. Donc ils ont cette obligation de respecter la parole qu'ils ont donnée. Ils ont également l'obligation de respecter la volonté et le choix du peuple qui, lui, a déjà rempli sa part de contrat en disant non à la violence à plusieurs reprises. Donc ce serait décevoir à la fois les Congolais et la communauté internationale et cela pourrait avoir des conséquences très graves. Nous, ce que nous demandons aux deux candidats, ainsi qu'à tous les hommes politiques congolais qui se présentent aux différents scrutins électoraux en RDC, c'est d'user des moyens légaux et pacifiques en cas de contestation des résultats pour faire entendre leur voix.
Sud Kivu à présent, les coordonnateurs principaux de l'Union pour la Nation à Bukavu accusent leurs adversaires de l'AMP de miner le terrain. Dans une conférence de presse tenue ce matin au chef-lieu de la province du Sud Kivu, Anselme Enerunga, qui conduisait la délégation, s'est dit victime de multiples tracasseries depuis leur arrivée à Bukavu. On l'écoute au micro de Dieudonné Bagaloua.
À partir du beach Mouranzi, le traitement qui a été réservé à notre délégation mérite d'être dénoncé. Comment expliquer, nous venons avec des affiches, mais on nous demande d'aller chez le TD à la 10e région militaire. Pourquoi faire? L'autre camp n'a pas le droit d'amener les affiches ici au sud Kivu. Quelques heures après, nous avons vu des jeeps militaires débarquer ici chez nous. Je ne sais pas pourquoi.
Du côté de la 10e région militaire, on parle des mâles que vous auriez refusé d'ouvrir peut-être pour le service de renseignement.
J'étais venu ici, j'étais encore ministre, je n'étais pas encore remanié. Un gouverneur a-t-il droit de fouiller un sac d'un ministre? Je présente quel danger? C'est eux qui font le terrorisme. Ce ne sont que des tracasseries, ce ne sont que des manipulations pour nous empêcher de battre campagne correctement.
Contacté, le responsable provincial de l'AMP refute ces accusations qu'il juge fantaisistes et sans fondement. Quant à la 10e région militaire, elle confirme que la délégation a refusé d'ouvrir ses malles à son arrivée au port de Bukavu. De plus, selon le porte-parole de la 10e région militaire, le lieutenant Kassanda, La délégation était accompagnée d'éléments de la 10e région militaire qui n'avaient pas d'autorisation pour assurer la sécurité de ces personnes. À Lubumbashi, c'est le cortège du coordonnateur de l'Union pour la Nation, section du Katanga, qui a essuyé des jets de pierre alors qu'il venait à peine d'arriver dans cette ville en provenance de Kinshasa. Des militants de l'UNAFEC se sont attaqués à son cortège pour empêcher la tenue du meeting de cette plateforme à la place de la Poste. Des véhicules ont été endommagés et les militants de l'Union pour la Nation dispersés. La police est intervenue et vient de maîtriser la situation. Pendant ce temps, on apprend que la Haute Autorité des médias a frappé, toujours à Lubumbashi, la sous-commission de vigilance et d'éthique électorale de la HAM, section du Katanga, a suspendu 3 professionnels des médias. 2 journalistes de la radio-télévision Mwangaza et 1 de la RTNC Katanga sont accusés de faire de la propagande en faveur de certains candidats. Les décisions ont été rendues publiques ce mercredi. Primo Mukambilwa Bwami, président de cette sous-commission, nous explique la portée de ces mesures. Il est au micro de Kalenge.
Ces 2 décisions de suspension de 2 journalistes de la radio-télé Mwangaza et de la radio Phoenix Université et de la RTNC, ces journalistes ont été suspendus pendant toute la durée de la campagne électorale pour qu'ils vaquent paisiblement à leurs activités de propagande. Pour autant, qui sont vus dans des manifestations publiques, qu'ils sont interprètes par-ci, par-là, et qui sont même des annonceurs des meetings, des campagnes de ces candidats-là. Nous avons également blâmé un journaliste de la RTNC qui, lui, profite de ses émissions d'animation d'antenne pour faire des insinuations propagandistes au profit de tel ou tel autre candidat.
Notons par ailleurs que la sous-commission de vigilance et d'éthique électorale de la Haute Autorité des médias, section du Katanga, dans une note d'observation, a rappelé à l'ordre la radio-télévision Tam Tam Afrique pour le non-respect des ordres de diffusion des bandes passantes de propagande électorale. Une autre décision de la HAM met au Kasaï occidental cette fois-ci. Le directeur de la radio-télévision Kasaï Horizon est suspendu d'antenne pour une période de 7 jours. Ce dernier est accusé de manquement, discrimination et incitation à la haine au cours de l'émission Le Temps de la campagne. La décision a été rendue publique cet après-midi dans les locaux de la HAM Kananga. La Haute Autorité des médias a encore frappé au Bandundu. Elle vient de donner une suspension de 3 jours à la radio Lumière, radio proche d'Olivier Kamitatou, et à la radio Liberté, proche de Jean-Pierre Bemba. Ces dernières sont toutes basées dans le territoire de Boulungu. Les directeurs de programme de ces 2 stations de radio sont aussi suspendus pendant 7 jours. La Haute Autorité des médias reproche à ces radios d'avoir diffusé des discours incitant à la haine et à la violence, mais également d'avoir recouru sans expertise à des émissions à téléphone ouvert, pratique défendue par les décisions et règlements de la Haute Autorité des médias. Direction Kasaï Oriental, avec ses plaintes de la population de Mbujimayi, elle accuse des membres des partis politiques ou des candidats indépendants aux élections provinciales de demander leur numéro de carte d'électeur en leur promettant en échange une somme d'argent ou autre bien en nature. La pratique ne se fait plus en cachette, elle est visible dans les églises, les marchés et même dans les écoles. Un électeur s'exprime au micro d'Emmanuel Elamiji.
Ils sont venus chercher ces cartes pour voter et ils nous donnaient 200 francs. C'est selon les commentaires qu'ils faisaient. Ils nous montraient qu'il faut venir avec les cartes. Quand vous arrivez devant la porte le jour de vote, on va vous donner l'enveloppe. Et dans cette enveloppe, il y a beaucoup de choses. C'est seulement après avoir voté que tu pourras ouvrir cette enveloppe à l'extérieur. Il y a une maman dont j'ignore le nom. Elle est chef de la cellule et d'autres mamans. Elles ont pris beaucoup de cartes. Ils ont dit que c'est pour le 29 de ce mois.
Contactez le coordonnateur provincial de la commission électorale indépendante, Hubert Chiswaka, reconnaît être informé de la situation. Cependant, il rejette la responsabilité aux électeurs qui perdent un document pouvant leur permettre de remplir leurs devoirs civiques. Il le dit au micro d'Emmanuel Elamiji.
Il est vrai, j'apprends qu'il y a des candidats à la recherche des témoins, soit de leur parti, soit des indépendants. Et vous savez, pour ce qui est des accréditations, il est demandé qu'il y ait les numéros des cartes d'électeurs. Comme ça, sur la demande des accréditations, on a la facilité de remplir les barrages. Et comme ça, les candidats ont leurs témoins en bonne et due forme. Je m'imagine mal comment même si on a collecté plus de 1000 cartes, comment on peut amener les 1000 cartes dans un bureau de vote où vous avez tout le monde représenté. Les témoins même des partis politiques, vous avez les observateurs tant nationaux qu'internationaux. Il y a la responsabilité même du président du bureau de vote et il y a la transparence. Si un électeur met sa carte à n'importe qui, ça ce n'était pas la fête de la CI. Nous exigeons la carte d'électeur pour être accepté à un bureau de vote.
Retour dans la capitale. Tension hier au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, l'ex-prison de Makala. Selon un communiqué de l'ONG La Voix des Sans-Voix, des affrontements ont eu lieu entre deux groupes des détenus. Toujours selon ce communiqué, ces échauffourées ont fait 60 blessés, dont 6 graves. Le témoignage de ces événements avec le chargé de communication et d'enquête de la VSV, Justin Chiba, est joint au téléphone par René Capita.
Il s'agissait donc d'un différent qui opposait un major qui s'appelle Emma Jolou au pavillon 11. Monsieur Fandé, qui fait partie d'un comité d'encadrement qui a été créé par les directeurs de CPK lui-même. Et ce différent a fait que hier, à 6h30, il y a des affrontements qui ont conduit à des victimes de plusieurs personnes. Donc plus de 60 personnes ont été blessées, parmi lesquelles des blessés graves. Et lorsque nous avons approché les faits, on a découvert que les pensionnaires du pavillon 11 jouissent de certains privilèges. Par exemple, ils peuvent aller au-delà des heures prévues de visite. Et les autres prisonniers voient cela de mauvais oeil. C'est comme ça que le major, raccompagnant ses visiteurs, appelé les heures normales de visite, il a été menacé par M. Fandé. Alors, celui-ci qui va se présenter quelques heures plus tard au pavillon des majors trouve également une occasion pour menacer Fandé. Dans sa fuite, il va se blesser et lorsqu'il se blesse, il va appeler le renfort pour dire qu'il a été battu par les pensionnaires du pavillon 11. Donc tout est parti de cette situation.
La Voix des Sans-Voix exige qu'une enquête soit diligentée afin de mettre fin à ces genres d'incidents qui sont devenus très fréquents dans le centre pénitentiaire et des rééducations de Kinshasa. Du côté de la prison, par contre, impossible d'avoir la version du directeur ou des autres autorités. Aucun d'entre eux n'a accepté de se prêter à notre micro. Confusion au sein de la mairie de Kisangani, où deux maires donnent des instructions contradictoires. Une caissière affirme avoir gelé la paie des saisonniers car elle a reçu deux ordres. L'ex-maire de la ville, élu député national, lui a intimé l'ordre de ne pas payer ses agents, alors que son adjoint, qui assume l'intérim à la tête de la ville, avait déjà donné l'aval pour le paiement. Les explications avec José Deschartes-Menga.
Ambicéphalisme s'observe à l'hôtel de ville de Kisangani depuis quelques jours. L'ancien maire de la ville, élu député national dans la circonscription de Yaouma, continue à engager l'hôtel de ville. Cela quand bien même qu'il ait opté pour sa qualité de député, dont le mandat a été validé par l'Assemblée nationale. Ce qui crée la colère de son adjoint, qui gère l'institution comme intérimaire depuis le départ de son ex-patron à l'Assemblée nationale. Gaspard Bossingué Akoko, maire adjoint, s'appuie sur les dispositions de la loi électorale qui accorde 8 jours aux députés élus de choisir entre leur mandat à l'Assemblée et leurs anciennes fonctions. De son côté, Ernest Etoula, élu député pour le MLC, dit rester à son fauteuil de maire de la ville jusqu'à la nomination de son remplaçant issu des rangs de son parti. Cette situation crée la confusion dans la tête du personnel de l'hôtel des villes qui ne sait plus à quelle autorité obéir. Ce mercredi dans l'avant-midi, le maire adjoint a tenu une réunion avec le personnel pour confirmer sa position. Au même moment, l'ancien maire était dans son bureau, prêt à signer d'autres documents administratifs en qualité de maire de la ville. Kisangani, José Deschartes-Menga, Radio Okapi.
Vous écoutez Radio Okapi, il est 18h14 à Matadi dans le Bas-Congo. La suite du journal avec vous, Adia Chipuku. Dans le cahier humanitaire, le Haut Commissariat pour les réfugiés, antenne du Bas-Congo, a lancé depuis vendredi dernier une opération de rapatriement volontaire des réfugiés angolais vivant en République démocratique du Congo. D'après Jean-Pierre Mouniakazi, assistant des services communautaires au HCR, il est prévu le rapatriement de 12 000 réfugiés angolais. Pour l'instant, a-t-il dit, cette opération se déroule sans difficulté majeure. Tani Kinzandita nous en parle.
Le premier convoi de 195 réfugiés angolais rapatriés a quitté le territoire congolais pour les postes frontaliers de Loufou le 13 octobre dernier. Le second a suivi 2 jours après avec 95 rapatriés toujours sur ces mêmes points de passage, nous a confié Jean-Pierre Mouniakazi, assistant au service communautaire du HCR. Toutes les opérations se déroulent sans difficulté et les autorités angolaises sont impliquées. Le réfugié reçoit une assistance sociale selon les besoins de tout un chacun, a-t-il poursuivi. Ce responsable du HCR a précisé que rapatriement concerne uniquement les personnes vulnérables ainsi que leurs familles. Cependant, une vague de réfugiés angolais rentre également dans leur pays d'une manière spontanée. Avant de lancer cette opération poursuit la même source, une réunion transfrontalière avait réuni au début de cette année l'UHR de la RD Congo, de l'Angola d'une part, et les autorités politiques angolaises de l'autre pour assurer la prise en charge de ces réfugiés une fois arrivés au pays. À noter que le prochain rapatriement est annoncé pour le vendredi 20 octobre. Matadi, Dani Kindanzita, Radio Okapi.
Et puis ce communiqué de presse de la Commission électorale indépendante qui vient de nous parvenir. Avant de fermer cette édition, la Commission électorale indépendante informe l'opinion tant nationale qu'internationale qu'elle vient, avec l'appui de la MONUC, de mettre à la disposition des deux candidats à l'élection présidentielle. Deuxième tour, deux hélicoptères de transport à raison d'un appareil à chacun des candidats, et cela pour usage électoral pendant toute la durée de la campagne électorale à l'élection présidentielle 2006. Cette mesure tient aux considérations suivante: la brièveté de la campagne électorale à l'élection présidentielle, dont la durée a été ramenée à 2 semaines, les énormes contraintes logistiques de déplacement sur l'ensemble du territoire dues à la rareté des infrastructures de communication et égard à la taille du pays, la nécessité pour le plus grand nombre d'électeurs de voir et d'entendre les candidats pour prendre connaissance de leur programme électoral respectif, a précisé le communiqué. C'est donc par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Okapi. Okapi.